Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Parti d'en jouer sur France Musique, l'émission dominicale qui invite les musiciens dits jeunes à venir refaire le monde en nous dévoilant le leur. Il faut imaginer qu'il n'est pas 21h, mais entre 2 et 3 heures du matin, qu'il y a la place pour les rêves les plus fous et que quand on parle d'émotion, c'est toujours sans faux semblant, en essayant de l'expliquer. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une pianiste pour qui le toucher n'est pas qu'une histoire de marteau. Bienvenue à Natacha Kudrytskaya.
Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек. Навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой.
Parti d'en jouer le vôtre, Natacha Kudrytskaya, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ça va, pas si mal.
Alors, je parle pas russe, mais vous m'avez dit quand même que cette chanson parle des sommets, des cimes, de ce qui est inaccessible.
Et qu'on peut toujours atteindre si on le veut.
Oui, c'est ça. Mais c'est presque diabolique de penser ça.
Ben non, c'est l'âme slave. L'âme slave courageuse qui croit en quelque chose. Que si on veut quelque chose vraiment, on y arrive.
Est-ce que c'est pas une manière de se dire qu'on est soi-même notre propre Dieu ?
C'est pas une religieuse qu'il faut dire ça. Mais c'est vrai que c'est. Bon, c'était. Vysotsky, c'était l'époque vraiment soviétique, il était interdit de jouer, et pourtant c'était le musicien peut-être le plus populaire de l'époque. Donc plus on l'interdisait, plus il jouait. Plus il y avait des gens qui venaient l'écouter, et il donnait un espoir incroyable au peuple, au changement, et de toujours se battre.
C'est vrai que la liberté est toujours une notion un petit peu absolue, on en parlera avec vous du point de vue musical, mais c'est presque une liberté contextualisée, parce que la liberté pour un russe, c'est pas forcément la même que celle pour un français.
Bah, on se bat toujours, hein. C'est ça la différence. Mmh. On a un petit peu de retard par rapport à vous, c'est vrai. Mais justement, on est plein dedans.
Ça s'apprend la liberté ou pas ?
Dans le combat, malheureusement.
Et la rage, est-ce que ça s'apprend ou est-ce qu'on l'a depuis qu'on est né ? Je pense à Vysotsky parce qu'il y a pas mal de vidéos quand même où on le voit, où c'est absolument bouleversant. Ouais. Mais cette rage-là, est-ce que ça se travaille ? Est-ce que ça se nourrit ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui relève d'un marqueur de la prime enfance?
Non, malheureusement, c'est les gens qui n'auront. Comme si c'est d'autres gens qui n'auront peut-être violents. Et heureusement qu'il y a certains qui arrivent à l'exprimer par la musique et pas par la force.
Est-ce que ce qu'on va entendre tout de suite, le deuxième concerto de Prokofiev, la fin, il n'y a pas un peu cette idée justement de rage aussi?
Oui, on va commencer d'une façon un peu violente, justement. Une incroyable force de musique qui a transpercé ce jeune homme qui était Prokofiev quand il l'a écrit, et ça m'a bouleversé cette musique quand je l'ai entendue la première fois. Les larmes aux yeux pendant l'enregistrement, c'est rare.
Thank you.
Pour ouvrir votre partie d'en jouer, Natacha Koutinskaya, alors c'est vrai que le but, c'est pas forcément de violenter les auditeurs, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même absolument incroyable. Une espèce d'intensité du désespoir, l'explosion du désenchantement, le deuxième concerto de Prokofiev par un pianiste Alexander Toradze, Valérie Gergiev, le Kirov Orchestra.
Ouais.
Ça, quand vous l'entendez, vous avez quel âge ?
Assez tard, en fait. Je l'ai découvert quand je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Donc j'avais 18 ans et je connaissais personne, je savais pas quoi faire. Je suis allée dans la médiathèque, j'ai pris ce disque que vous avez là et voilà, j'ai mis les écouteurs, j'ai mis le concerto que je n'ai pas entendu encore, le deuxième concerto, et j'avais les larmes qui me coulaient en regardant de la cour du conservatoire. Je m'attendais tellement pas à ça, puisque je connaissais très bien voilà, le premier et le troisième concerto que j'ai joué, qui sont incroyables, très grotesques, violents aussi, mais c'est un autre Prokofiev complètement, et tellement sarcastique, plein d'énergie, et c'était un choc terrifiant. Je me disais que c'était un jeune homme quand même quand il a écrit ça. Il était à peine plus âgé que moi, 22 ans peut-être.
1913, donc du coup, suite au suicide d'un de ses amis pianistes.
Voilà, exactement. Donc c'était un camarade du conservatoire qui lui a écrit une lettre pendant qu'il composait vraiment ce concerto, en terminant la lettre par « Sur ce, je vais me pendre ». Et voilà, une vague de désespoir dans lequel plonge Prokofiev à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment devenu incompréhensible comment, avec les sentiments pareils, on peut se concentrer pour décrire cette musique-là, pour que ce soit accessible aux autres. C'est le seul moyen de l'exprimer. Donc je trouvais que c'était un des moments les plus marquants.
C'est une musique qui vous ressemble
en tout cas, j'ai ressenti un besoin absolu de vouloir le jouer. Je me suis dit, voilà, tant que je ne le joue pas, je vais continuer à jouer du piano.
Thank you.
Christian Ferras berce notre partie d'Anjou et notre dimanche soir avec la berceuse de Gabriel Fauré. Natacha Koudritskaya est avec nous dans le partie d'Anjou. Natacha, alors avant d'arriver sur les premiers contacts avec la France et avec la forme de tradition d'interprétation française par Christian Ferras, Alain Planès, votre professeur et d'Henri Barda, avant cela, quelle est votre histoire? Vous venez de Kiev?
Oui. Moi, je tenais assez loin, en Oural, à Perm. Mais après, mon père étant ukrainien, on a déménagé à Kiev à l'âge de 3 ans. Et donc, je fais mon parcours musical au début à Kiev, dans une école spécialisée de musique pendant 10 ans. Et après, je suis rentrée au conservatoire donc de Kiev. Et vite fait, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs un petit peu aussi.
Et pourquoi ?
Parce que 10 ans d'études avec les professeurs post-soviétiques, c'est très bien, mais que j'avais besoin de changer aussi et d'entendre autre chose, découvrir autre chose.
Et donc, quels sont vos premiers contacts avec la France ?
Alors, justement, ce genre de musique, mais c'est vrai que c'était le moment aussi où YouTube a commencé à se propager. Et je ne veux pas dire que... On est resté un petit peu dans le passé. Maintenant, ça change, évidemment, à Kiev, dans toutes les villes un petit peu post-soviétiques. Mais on était, je trouvais, un petit peu limité par plein de choses là-bas. C'est que les professeurs sont extraordinaires, géniaux. Mais ce sont toujours un petit peu les mêmes. C'est les vieux professeurs qu'on a depuis les années 60, 70 et malheureusement, les jeunes partent, vous voyez l'exemple. Donc, on reste un petit peu dans la même éducation. On n'a pas d'accès à des mêmes moyens, vous voyez, d'apprendre donc, des bonnes éditions, des partitions, les enregistrements même. On est quand même resté avec notre 33 tours et les cassettes. Enfin, à l'époque où j'étais partie, maintenant, évidemment, ça change. Mais même les disques, enfin, personne ne pouvait se permettre d'acheter les disques de chez Gramophone, quoi. Donc, évidemment, avec YouTube, ça change. Et voilà, je suis arrivée en France plein dedans. Et puis, on me faisait découvrir des choses incroyables. J'ai jamais entendu parler de Christian Ferras, jamais entendu parler de Samson François, de Courtou, et c'était un plongeon, vraiment, dans une autre moyen d'expression.
Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un point de votre histoire, on n'est pas forcément obligé d'en parler, mais qui vous fait arriver en France pour des raisons précises?
Parce que je venais en France quand j'étais petite, et... dans une famille d'accueil, dès l'âge de 8 ans, et en Bourgogne, qui est devenue vraiment ma deuxième famille maintenant, française. Et je venais presque tous les ans pour passer un mois ou deux mois en été pour les vacances. Et j'ai appris à parler français, et pour ça j'avais les yeux qui brillaient déjà. Je savais qu'il fallait que je pouvais vivre aussi autre chose. Et j'ai cherché le conservatoire supérieur, je me suis renseignée sur tous les professeurs qu'il y avait, j'ai écouté les enregistrements et j'ai dit « Ah, Planès, c'est quand même pas mal, il y a quelque chose que j'ai jamais entendu, et une finesse rare, et j'avais envie de me rapprocher un petit peu de ça aussi. »
Alors c'est pas Alain Planès qu'on va écouter justement maintenant, mais c'est justement des professeurs qui a aussi enseigné au Conservatoire National de Paris. C'est Henri Barda dont on parle juste après.
Thank you.
Henri Barda, pianiste absolument prodigieux ici dans cette quatrième balade de Frédéric Chopin. Avec vous, Natacha Koudritskaya, dans le parti d'en jouer. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, donc vous nous dites, vous choisissez Alain Planès pour rentrer au CNSM de Paris. Et puis, Alain Planès, on en parlera un petit peu après, mais remplacé pendant 6 mois par Henri Barda, que vous suivez ensuite à l'École normale. Est-ce que vous pourriez nous décrire la personnalité de ce pianiste hors norme?
Ouais, enfin, je choisis Alain Planès, mais c'est lui qui me choisit quand même comme élève aussi, heureusement. Et Barda, c'est un sacré personnage, lui. Donc, il a remplacé Alain Planès pendant les 6 mois. Et c'est un choc un peu parce que souvent, les professeurs, enfin les miens en tout cas, en Ukraine, ce sont des grands orateurs, quoi. Ils savent comment expliquer des choses, tout ça. Ils sont très forts sur la parole, mais ils ne me montraient pas trop comment faire, comment ils jouaient, comment ils voyaient des choses. Et là, je me retrouvais face à un tel monstre du piano. Je disais, enfin, c'est à nous tous, enfin, quand on l'entend, quand on le voit jouer, on se dit, mais comment ça se fait que ce n'est pas le musicien le plus reconnu quoi, en France. Et c'est un pianiste absolument hors norme, avec un répertoire incroyable, qui bosse énormément tous les jours, qui est un passionné. Et il fait pleurer, il fait rire quand il joue. Et on apprend avec lui juste à l'écoutant. Mon but, chaque fois que je venais en cours, c'était de le mettre au piano. Il fallait très vite que je me demande, ah, je ne sais pas trop comment faire, comment on peut. Et dès que j'arrivais à l'avoir sur le piano, voilà, je ne bougeais plus et je commandais juste. Il disait un petit peu ça, un peu de ça. Et puis il s'amuse aussi à jouer un petit peu dans toutes les tonalités.
Bon, il aime transposant.
Pas... Ouais, il aime pas quand on parle de ça. Parce que... mais c'est vrai que nous sommes amusés énormément. C'est fascinant. Cette personne-là, clavier, ils sont fous. Ils jouent avec les oreilles, donc il connaît n'importe quelle œuvre. Il peut commencer à partir de n'importe quelle touche, et c'est tout aussi beau, tout est si parfait. Il n'y a personne qui connaît ces œuvres-là mieux que lui. Et enregistrer les 4 ballades de Chopin, je ne sais pas, 50% de pianistes l'ont fait, quoi, et c'est impossible de rapporter quoi que ce soit de nouveau dans cette musique-là. Et lui, par contre, on entend ça, on revient pas. Donc c'est vraiment un disque à acheter, à avoir. Il l'a enregistré il y a 2-3 ans.
3 ans.
Ouais, et en plus, c'est un live. Hein, donc voilà.
Alors, ce que vous apprenez aussi en arrivant en France, et c'est aussi un point de contact assez intéressant entre une forme de tradition russe et une tradition française, c'est à faire de la musique de chambre. Ça peut paraître un petit peu lieu commun et premier degré de dire ça, mais la vision soliste éclipse complètement le fait de jouer avec d'autres musiciens. Et pour évoquer cela, vous avez choisi une musique magnifique de Korngold, la suite opus 23.
Thank you.
Quatrième mouvement de la suite pour deux violons, violoncelle et clavier, clavier main gauche, opus 23 de Erich Wolfgang Korngold, interprété par Bengt Forsberg, Kjell Liesel, Ulf Forsberg, Nils Erik Sparf et Mats Liström au violoncelle. Alors Natacha Kotryskaya est avec nous dans le parti d'en jouer. Musique de chambre, musique aussi des autres. Vous nous disiez qu'à Kiev, effectivement, la vision soliste du pianiste éclipsait, privilégie complètement cette vision-là, et en masquant le fait que aussi la musique est un moment de partage avec d'autres dans des formats un petit peu plus réduits. Et ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est vrai que revenons à Christian Ferras, à la personnalité d'Alain Planès, à Henri Barda. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment, depuis Kiev, à l'âge de 12-13 ans, vous ressentez le besoin de vous évader. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a eu un événement marquant ou pas pour ressentir cela, pour aller voir ailleurs qu'à Kiev, dans cette situation de pianiste un peu prodige, parce que c'est vrai qu'il y a les traces d'Horowitz à Kiev, etc., mais conservatoire spécialisé. Ça, vous en ressentez les limites très tôt ou pas?
Limites de quoi?
De la musicalité, quoi, du fait que pour exprimer d'autres choses, il faudrait aller voir ailleurs.
Oui, c'est juste que j'étais intéressée par d'autres interprétations de la musique française, surtout juste par les enregistrements, pour avoir l'accès à ces gens-là, de les avoir en direct, de les voir, de les entendre, de parler avec eux. Donc, et c'est vrai que la musique de chambre, ça, j'ai découvert déjà en arrivant en France. On considère ça un petit peu comme une matière secondaire à l'école, à Kiev, et c'est vrai que c'est complètement autre chose de se retrouver dans une chambre avec un trion, un quatuor, et de gérer les autres musiciens qui ont aussi un ego, évidemment, faut pas cacher, et de trouver un moyen de communiquer ensemble, de trouver une version qui nous convient à tous. Donc du coup, j'avais un peu une vision extrêmement, très solide, très concrète, un petit peu encore à la Ruskov, et j'avais du mal. C'est vrai que j'étais un petit peu chiante, je pense, vraiment en musique de chambre, à vouloir bien comprendre tout, décider, tout ça. C'est vrai qu'avec l'expérience, ça change un petit peu. Je dois dire que je pense que la musique de chambre, soit ça marche, soit ça marche pas, en fait, maintenant.
Mais quand ça marche pour quelle raison?
Je sais pas, c'est une magie. On a peut-être l'éducation aussi, c'est une ouverture aussi, et le respect de l'autre. C'est pas l'expérience, je dis qu'il y a pas parfois, il y a quelque chose qui se passe dans le groupe, on n'a pas vraiment besoin de parler, quoi. Et si vous commencez trop à parler, la plupart du temps, on s'en sort pas, quoi. On rejoue pas ensemble.
Thank you.
Oui, Casals disait qu'interpréter, c'était, ça commençait au moment où on s'éloignait un petit peu de la partition, on mettait la partition de côté, il y avait nécessité à ne pas lire la partition. André Steyer ici, dans la marche turque de Mozart, sonate Köchel 331, avec vous, Natacha Kotretskaya, et c'est vrai, vous me disiez à la fois très conservateur, il y a un cadre quand même au tableau, là. Et puis, liberté totale, ça, en quoi ça nourrit votre démarche?
Les questions éternelles, enfin, il y a une interrogation qui se pose, quoi, jusqu'à où on peut aller avec justement ces compositeurs tellement classiques, dits avec l'ornementation, avec l'improvisation, à quel point on peut permettre, voilà, c'est où se trouve la limite de notre liberté en tant qu'interprète. Et je trouve que André Steyer, dans ces enregistrements-là, justement, nous montre vraiment avec un exquis absolu comment jouer avec ça, comment ne pas dépasser les limites. Enfin, il a dépassé complètement les limites, mais je trouve que c'est tellement dans peut-être pas dans l'air du temps, je sais pas, dans l'air de notre temps, mais parce que c'est presque un peu jazzy, mais ça. On reste quand même dans Mozart. Je ne sais pas si Mozart aurait aimé qu'on fasse ça avec sa musique à lui, mais lui, il le faisait avec les musiques des autres, en tout cas.
Et puis la notion de limite est complètement relative. C'est vrai que ça me fait penser à ce que disait Henri Barda, une interview dans laquelle je retrouvais ses explications sur comment créer du relief, que la musique est dans la distance entre une note et puis une autre. Ça paraît tout simple de dire ça, mais que tout est dans la manière de timbrer, dans le rubato, et qu'une fois qu'on a compris cela, on peut justement prendre vraiment part à ce drôle de rituel qu'est le concert, sans avoir l'impression de ne pas y être invité. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'il dit Henri Barda, que le concert ne soit pas extérieur à soi, et que l'acte même d'interprétation ne soit pas extérieur, que ce ne soit pas de la pure mécanique.
Oui, mais Henri, il vit tout d'une façon le plus extrême, je pense. Tout est à fleur de peau et un musicien sont énormes. Ouais.
Parce que liberté, c'est vrai qu'on en parlait en tout début de partie d'Enjouée. On disait, la liberté est aussi une notion relative. Les limites, la limite stylistique est une notion éminemment relative. Et puis la notion de perfection aussi. Parce que c'est vrai qu'en parlant, en préparant un petit peu l'émission ensemble, vous me disiez... Il n'y a de perfection que forcément imparfaite.
Oui, bah oui, mais c'est ça qui fait un bien fou aussi d'entendre toutes ces musiciens-là et ces vieux enregistrements aussi de Samson-François qui sont peut-être pas parfaites, mais ça fait tellement du bien dans ce monde tellement objectif et de
parce perfection. Parce que tout le monde joue bien, vous me disiez, tout le monde joue bien en fait.
Oui, tout le monde joue bien, c'est ça en fait, c'est que le niveau général, je pense que ça a tellement augmenté depuis ces années-là. Tout le monde maintenant doit jouer bien, sinon on ne joue pas de toute façon sur scène, personne ne vous invite. Donc le niveau général est extrêmement élevé. Par contre, d'atteindre ce niveau-là, il y en a tellement peu de génie, quoi. Donc ça fait un souffle d'air qui fait tellement de bien d'entendre ces enregistrements-là, qui sont peut-être pas parfaites, mais c'est live, il donnait tout, il savait que c'était one shot, et il vivait de leur musique, pas de perfection.
Là, vous avez enregistré un disque que vous ne vouliez pas passer, en fait. Au départ, vous me disiez, je ne suis pas forcément fan. Mais c'est un disque qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il est vraiment très très beau, se consacrer aux pièces de Rameau, départ pour clavecin. Donc j'imagine quand même entre Steyer et... l'interprétation que vous donnez des pièces de Rameau, en pensant à Marcel Meyer, tout ça, il y a quand même un lien de cause à effet.
Oui, parce que je m'accroche à ce genre d'interprétation extrêmement libre, parce que ça me donne... je me justifie un petit peu là-dedans, parce que ça m'inspire au fait de chercher quelque chose de plus personnel possible. C'est une musique-là qui m'a permis, en fait, lâcher prise un petit peu et de me lancer dans quelque chose que je ressens moi. L'interprétation de jour au lendemain change. Avant l'enregistrement, j'ai dû jouer d'une façon. Pendant l'enregistrement, de 10 façons différentes. Mon pauvre ingé son. Et puis, après l'enregistrement, je pense que je joue d'une façon complètement différente encore. Surtout la musique baroque, je pense que qui m'a libérée, parce qu'on a une énorme excuse à se dire qu'on ne sait pas comment c'était joué. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Évidemment, il y a plein des cris qui sont faites, mais une fois tout ça lu, je peux pas dire que j'ai tout lu, mais j'ai lu quand même pas mal de choses, j'ai essayé de me renseigner, d'aller jouer sur le clavecin, de parler avec des gens qui jouent du clavecin, et après il faut oublier tout ça, et d'essayer de se faire porter par le langage du compositeur, par la musique elle-même.
Les cyclopes de Rameau par vous, Natacha Koudritskaya, dans votre partie d'Enjouer. C'est vrai qu'en pensant à l'image des cyclopes, hein, cet argument littéral, on peut dire quand même que sur l'idée de perfection dont on parlait ensemble, qu'un cyclope a, selon l'interprétation, trois yeux, avec un œil au milieu du front, et puis deux qui seraient les oreilles sur le côté, mais que justement cet œil au milieu, ce seul œil, ou alors ce troisième œil, troisième voie, ce serait la voie de la sagesse, de la perfection, de la maturité, de l'absolu. Et que bah, cela rejoint aussi une considération assez importante pour vous, c'est la manière dont on s'immerge dans la musique. Et c'est toujours un grand mystère pour les gens qui viennent vous voir en concert, par exemple, de se dire, mais comment vous arrivez-vous à vous immerger dans la musique que vous jouez au moment du concert?
Ben, on vient pour ça quand même.
Ça, c'est l'école russe qui parle. Hein.
Non, enfin, je sais pas, c'est le public qui est là pour ça. Et, enfin, c'est lui qui nous aide à être immergé aussi dans la musique.
Mais
enfin,
vous disiez la musique baroque m'a libéré. Mmh. Bon, libéré de quoi?
Ah, ça c'est plutôt dans l'interprétation, je pense, parce que il y a toujours tellement de choses marquées dans les autres partitions qui m'angoissent. Enfin, c'est, et puis on apprend tellement, on apprend les œuvres avant de les jouer. Comme par exemple les sonates de Beethoven, ça m'a complètement traumatisée. Le fait d'avoir appris comme ça tellement bien la forme sonate à l'école, comment c'est construit, les thèmes, le premier thème, le deuxième thème, le thème qui les relie, tout ça. Et après, on oublie ce que c'est la musique, on oublie comment il faut... Il ne pensait pas à ça, Beethoven, quand il écrivait comment il allait faire le rapport entre les... Enfin, je ne pense pas, je ne sais pas, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais moi, ça, du coup, ça me crispe complètement. Je pense qu'en matière complètement géométrique. Et j'ai beaucoup de mal à jouer voilà, les sonates classiques, par exemple. Mozart, pour moi, c'est vraiment fou. Tellement loin, je ne peux pas être simple, en fait. Ça, c'est le plus grand défaut, je pense. Dès que la musique est plus évidente, je ne sais quoi faire. Avec Mozart, je suis complètement perdue. C'est pour ça aussi, musique de chambre, ça m'aide beaucoup. Par exemple, avec Beethoven, ça m'aide à me libérer, parce que les autres te portent aussi. Donc voilà, je profite des occasions et dès que je peux, l'année prochaine, on va jouer toutes les sonates de Beethoven avec violon. Et là, ça m'aide à me libérer et d'entendre et de jouer, d'accompagner l'autre, de faire créer la musique ensemble. Et je profite de ces moments-là pour voilà, apprendre, réapprendre à jouer cette musique-là. Et dans la musique baroque, justement, il n'y a rien. Dans la partition, vous ouvrez la partition, il n'y a rien. Il y a des ornementations qui sont marquées, il y a une petite tablature comme ça de Rameau dans les pages d'avant. Et une fois que vous avez appris ça, pas de nuance, pas de tempo. Donc tout est à votre disposition, c'est à vous de créer. Donc je me perdais énormément parce que sur piano, évidemment, il y a la pédale, on peut pas jouer. Donc on ne sait pas comment trop en faire. Après, j'allais essayer un petit peu sur les clavecins. Sur clavecin, c'est incroyable, parce que dès qu'on se met à jouer cette musique sur clavecin, tout devient clair. Tout d'un coup, il n'y a plus de questions à se poser, le tempo s'impose, l'ornementation s'impose, et on comprend pourquoi ils sont là, ces ornements, sans cesse. En fait, c'est vraiment pour faire durer le son. Et après, il faut trouver le moyen d'incorporer ça sur un instrument moderne. Et voilà, donc c'est tout un point de recherche que j'étais complètement seule dans ce monde-là et ça m'a permis d'oser chercher. Voilà.
Maybe not from the
Police Full of Love, Björk, dans le Parti d'en jouer de Natacha Kudrytskaya sur France Musique. Alors c'est vrai que vous nous parliez de recherche, de main tendue entre hier et aujourd'hui, de cette notion de liberté, de comment aussi créer cet espace de liberté, au-delà de la liberté dans l'interprétation, mais de comment arriver à se défaire des chaînes de l'enseignement, de la mécanique, de l'artisanat du geste, de la répétition. En quoi cette musique, à sa manière immersive, parce que finalement, on se demande si l'acte d'interprétation n'essaye pas de pallier par le geste la force d'immersion qu'il y a de la musique électronique, environnante, immersive.
Je pense que cette musique électronique est un peu le futur de la musique, en quelque sorte, parce qu'il faut dépasser un petit peu les limites. On a déjà dépassé les limites de l'instrument de 18e siècle. Il faut aller plus loin. C'est ce qu'ils font, les artistes. C'est juste que maintenant, on rentre un petit peu dans la musique de miniature. Donc, c'est des petites pièces. Évidemment, c'est plutôt pop, peut-être vraiment pour les... je ne sais pas, c'est un autre langage. C'est un langage, ça doit être un langage de notre temps. Donc, on est à la recherche d'autres moyens d'expression. Et c'est pour ça, à la découverte de Björk, je me suis dit, vraiment, elle a compris quelque chose. Quoi. Elle va dans la nature, elle cherche tous les sons de la nature, tout ce qui l'inspire, ça se recrée dans la musique. Elle utilise le monde entier pour recréer son monde intérieur.
Et on se demande si d'ailleurs, dans la musique qu'on va entendre, qui est aussi immersive à sa façon, parce que vous me disiez, quand vous avez entendu cela, c'est la cavatine opus 130 de Beethoven, on parlait de Beethoven justement, de l'immersion par la surdité en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la surdité est aussi une force immersive chez Beethoven, et vous me disiez, mais on a presque l'impression, en entendant l'interprétation qu'on va entendre tout de suite, que sans écrire cela, Beethoven serait devenu fou.
Ou alors, oui, je pense que quand on entend ça, on ne peut pas imaginer comment on peut vivre...
Avec cette musique qu'on a dans la tête sans forcément...
Oui, qu'est-ce qu'il ressentait ? C'est-à-dire qu'il y a un énorme gouffre entre le sentiment et le moyen d'exprimer ce sentiment-là. Et c'est justement là que la musique nous vient à l'aide. C'est pour ça qu'on devient musicien, c'est pour ça qu'on devient aussi compositeur. C'est que quand on... ne peut pas exprimer avec les paroles, heureusement qu'il y a de la musique.
Thank you.
la cavatine de l'opus 130 de Beethoven, magnifique quatuor Busch, interprété donc en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1941, en exil en Suisse. Natacha Koutretskaya, l'immersion totale.
C'est les limites, les langages qui sont atteintes. Une vulnérabilité à fleur de peau, quoi. Et c'est là tout Beethoven, je pense vraiment à chaque fois à la limite entre un désespoir, le chaos et l'ordre. Et on pense toujours que la musique va s'effondrer, quoi.
Et puis quelque chose qui touche aussi quelque part nos drames intérieurs, personnels. Et donc on arrive à la fin de ce parti d'en jouer. C'est vrai que votre arrivée en France coïncidait avec Tchernobyl, ça vous l'avez connu. Et puis une forme d'explosion, et puis une autre explosion plus récente que vous avez connue, c'est une explosion sociale populaire à Kiev, dans les récents événements qui sont déroulés. Et donc ça, qu'est-ce qu'on parlait ? C'est vrai que tout se rejoint en fait, on parlait de rage, on parlait de cris populaires en tout début de partie d'en jouer. En quoi ça nourrit la musique ? Ou est-ce que la musique, c'est pas la chose de la vie la plus réelle.
Oui, c'est juste que je voulais parler de j'y étais à Kiev pendant les événements sanglants là au mois de février et c'était un des moments les plus bouleversants de ma vie. C'est impossible de dire en trois mots, mais juste pour vous dire que il y avait ces jeunes gens qui se battaient que j'ai vus avec qui je parlais et ces combattants là ils avaient 20 ans. À peine 17 ans, 25 ans, 27 ans. Et les parents ne voulaient pas les laisser partir. Ils étaient des jeunes parents, ils avaient des enfants de 10 ans. Et puis ils se disaient, mais si ce n'est pas moi, qui va le faire ? Qui ira se battre contre ce gouvernement-là, contre ce dictat ? Et la plupart des jeunes sont venus de tout le pays, mais beaucoup de l'ouest du pays. Quand c'était encore plus ou moins calme, ils chantaient beaucoup les chansons sur les rues de Kiev. Et donc ils chantaient beaucoup une chanson qui vient de côté l'ouest de l'Ukraine. Donc c'est vraiment un langage ukrainien tellement lointain que même moi, parfois, je ne comprends pas vraiment tous les mots parce que bon, l'Ukraine, elle était vraiment dispersée en plein de pays différents, sous l'Austro-Hongrie, la Pologne, tout ça. Donc il y a les langages qui sont créés.
Et que vous entendiez pendant les événements.
Oui, oui, oui. Et donc ces jeunes gens, ils se réunissaient dans les groupes, vous savez, comme les combattants ukrainiens à l'époque cosaques, c'était des cosaques. Donc ils étaient séparés en centaines, on les appelait pour mieux distribuer des tâches. Et donc quand il y avait le premier jeune qui était mort, ils sont venus à la place et demandé de passer cette chanson-là parce qu'ils les chantaient tout le temps ensemble. Et depuis, tous ces jeunes, ils étaient enterrés sous cette chanson-là et on l'écoutait pendant 3 jours à Kiev. Et j'aimerais que on pense à eux et pour ces gens qui se battaient pour la liberté. Et en espérant qu'ils ne sont pas morts pour rien.
Un grand merci à vous, Natacha Koutretskaya.
Merci.
Au revoir. Плине
кача у потисині.
Katcha, pour refermer ce parti d'en jouer avec vous, Natacha Kudrytskaya, un grand merci de nouveau à vous. Et donc c'est un chant qui était chanté pendant les récents événements en Ukraine, en hommage à ceux qui sont morts. Merci à vous. Éric Lancien a réalisé ce parti d'en jouer avec Bernard Lagnier à la prise de son et au mixage et bien sûr Jean-René Bonissant à la préparation. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Bientôt 22h, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.